Donc ce soir, je veux commencer avec ce thème, cette première catégorie de dons, les dons spirituels. Par trois fois, dans 1 Corinthiens 12 à 14, le fameux passage sur les dons spirituels, Paul utilise ce mot grec, pneumatikos. La racine, le radical, nous voyons pneuma, et on sait ce que ça a donné en français. Et en grec, c'est le souffle. Vous voyez, pneumatologie, etc., pneu, bon, le souffle, l'air, le souffle. Mais c'est aussi, avec un majuscule, le Saint-Esprit. Pneuma, c'est ce qui est spirituel. Pneumatikos se traduit par spirituel. À vrai dire, deux choses sur ce mot. Dans 1 Corinthiens 12, 1 et dans 1 Corinthiens 14, 1, si vous regardez dans vos Bibles, il est question des dons spirituels par deux fois. Sauf que le mot don n'apparaît pas, mais c'est chaque fois spirituel. C'est-à-dire que simplement, il dit, pour ce qui s'agit des spirituels, pour ce qui s'agit des pneumatikos. Si quelqu'un a la Bible Colombe, c'est vrai que maintenant elle est un peu ancienne, mais certains l'ont encore, il est marqué pour ce qui s'agit des spirituels. Je crois qu'à un moment, il mettait don entre parenthèses, parce que le mot n'existe pas directement en grec, mais on l'a ajouté. Alors, dans l'Épître aux Corinthiens, le mot pneumatikos, spirituel, c'est un mot valise. Dans le sens où Paul, il met plein de choses. Il utilise, je ne sais pas combien de fois, ce mot pneumatikos. Par exemple, alors si vous notez, vous retrouverez après dans votre Bible, dans l'Épître aux Corinthiens, la première, ou alors vous avez ça en tête, plusieurs passages des Corinthiens, par exemple, au chapitre 3, il parle des hommes spirituels. Et il dit, ce sont des pneumatikos. Il parle aussi d'un langage spirituel, pour des choses spirituelles. Alors là, c'est très compliqué, parce que dans le grec, il dit des pneumatikos pour des pneumatikos. Mais nous, il faut comprendre qu'en fait, c'est un langage spirituel pour des choses spirituelles. D'accord? Quand il parle un peu plus loin dans Corinthiens 10, ils ont bu un breuvage spirituel et mangé un aliment spirituel, le rocher, hein, Christ, c'est encore pneumatikos. Ils ont bu pneumatikos. Ils ont mangé pneumatikos. En fait, c'est vraiment l'épître du pneumatikos, de ce qui est spirituel. À la différence de ce qui est charnel, sarkikos, charnel, et de ce qui est animal, psychikos, le psyché, donc l'animal, c'est l'homme qu'on trouve autour de nous. Sarkikos, c'est le chrétien charnel, c'est celui qui est né de nouveau, mais qui a besoin encore de grandir dans la vie de l'esprit. Et le désir du Seigneur, c'est qu'on devienne des hommes spirituels, des femmes spirituelles, des pneumatikos. Donc vous voyez, c'est vraiment un mot valise dans lequel il va mettre plein de choses, parce que c'est une épître où il va traiter de ces choses spirituelles. Ce qui est intéressant avec ce mot aussi, c'est qu'il n'est pas employé dans les évangiles, mais il n'apparaît qu'après la Pentecôte. Voilà, il n'apparaît qu'après la Pentecôte. Et il désigne donc toutes les choses appartenant à l'Esprit. Alors maintenant, on va se concentrer surtout sur 1 Corinthiens 12 à 14 pour parler des dons spirituels, des spirituels tels que nous avons l'habitude de les concevoir. Ils procèdent du Saint-Esprit. Paul est clair, c'est le Saint-Esprit qui en est la source. Tout à l'heure, on parlera des ministères de la parole. Les ministères de la parole viennent de Jésus, parce que Jésus est la parole. Et le Saint-Esprit, celui qui donne, distribue les spirituels, les pneumatikos. Donc, il en est à l'origine. Il en est aussi le dispensateur et il les distribue sur la forme qu'il veut et à qui il veut. C'est-à-dire que, non seulement ils viennent de lui, mais c'est lui qui les gère. Le dispensateur, c'est celui qui les gère. Et donc, les dons qu'il va distribuer vont se manifester parfois comme étant une parole de prophétie, comme étant une parole de connaissance, etc., etc. L'un des 9 dons dont il est question dans le texte. Et il les distribue à qui il veut. Ce sont des grâces, ce ne sont pas des récompenses. Et c'est lui qui gère, c'est pas l'homme qui gère, c'est pas le pasteur qui gère, c'est le Saint-Esprit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est lui qui opère ces choses, donc. Ces dons sont des signes de la présence du Saint-Esprit dans l'Assemblée, une preuve de son activité en son sein, de son opération, comme Paul l'écrit. Nous croyons que le Saint-Esprit est présent là où deux ou trois s'assemblent en son nom, telle est la promesse du Seigneur, mais que le Saint-Esprit soit présent, c'est une chose, qu'il soit à l'œuvre et actif, c'en est une autre. Et ce que nous devons rechercher, ce n'est pas la présence du Saint-Esprit, il est présent, mais ce que nous devons rechercher, c'est son activité, son opération. Mais pour cela, bien sûr, il faut venir avec ce désir de le laisser se manifester et aussi lui permettre de se manifester. Alors, je dis ça dans chaque église où je vais, je ne le dis pas comme vous devez faire ceci, je vous partage simplement une expérience. Frères et sœurs, nous sommes des églises de Pentecôte, pour certains, de deuxième, troisième génération. Mais nous avons besoin de relaisser de la place au Saint-Esprit. Dix ans d'expérience à Paris m'ont appris que, bon, les Parisiens sont des gens très occupés, mais vous êtes aussi des gens très occupés parce que pour certains, vous avez aussi beaucoup de routes à faire tous les jours, vous avez plein d'activités et tout ça. Le culte le dimanche n'est pas forcément le meilleur moment pour laisser de la place au Saint-Esprit. Et donc, ce qui nous a paru intéressant, et je vous partage cette expérience, c'est de pouvoir mettre un temps de côté au moins une fois par mois. Et on a essayé de trouver le meilleur moment, c'est dit le meilleur moment, c'est le vendredi soir. C'est notre expérience. Et on dit, on va donner du temps au Seigneur. Et on a développé à partir de la prière, et puis après on a ouvert les réunions avec mes collègues. Et donc, une fois par mois, vendredi soir, on prend du temps, on donne du temps au Saint-Esprit. Et on s'est donné, et là, en fait, il y a deux temps, il y a la soirée de prière de 19h à 22h. Bah, prière, louange, on commence par 3 quarts d'heure, 50 minutes de louange. Et puis après on se laisse conduire par l'Esprit. Si l'Esprit nous appelle à prier pour le baptême du Saint-Esprit, pour renouveler dans le parler en langue, pour l'exercice des dons spirituels, pour l'imposition des mains, pour des temps d'exhortation, d'enseignement, etc., etc. Si c'est pas 3 heures, mais ça peut être 2 heures, ça peut être 2h30. On l'a vécu à Pau l'année dernière, on a mis ça en place, et il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, et ça a fait du bien à l'Église, parce que on peut retrouver, on appelait ça soit ciel ouvert, soit chambre haute, et vraiment c'est en bénédiction. Et sur Paris, parce qu'on a beaucoup de nos frères et sœurs africains ou haïtiens aiment beaucoup la prière, et avec eux c'est pas compliqué, vous programmez de 11h jusqu'à 5h, 6h du matin, et ils sont là et prient. Mais en tout cas, donc, il y avait 19h, 22h, et puis après, la deuxième partie de la nuit. Mais je dis ça, non, encore une fois, pour dire, vous devez faire ça. Mais j'aimerais tellement encourager les églises à dire, nous devons retrouver cette vitalité de la Pentecôte, cette liberté, se donner du temps. Et je pense qu'il y a des choses à faire si partout, je crois que véritablement, ça peut être une bénédiction pour nos assemblées d'aller dans ce sens. Donc, des signes de la présence du Saint-Esprit, oui, parce que le Saint-Esprit distribue les dons et il agit à travers nous, il parle à travers nous, c'est ce qu'il désire. Parce que nous sommes des prêtres et nous sommes des prophètes dans la maison du Seigneur. Il veut vous utiliser. Les dons spirituels sont accessibles à tout croyant né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Alors, ils ne nous sont pas donnés. Comme ça, en disant, tiens, toi, je vais te donner ça, dans le sens où, voilà, toi, tu auras le don de prophétie, toi, tu auras le don de parler en parole. Non, non. Mais ils sont accessibles dans le sens où il va y avoir une démarche, malgré tout, à faire. Alors, je dis pas que le Seigneur puisse pas utiliser comme ça, il en prend un, et puis ça peut arriver. Il est souverain, il fait comme il veut. Mais la manière générale, c'est aspirer. Aspirer aux dons spirituels. Aspirer, désirer. Le Seigneur est à la recherche de gens qui ont envie de bénir, envie de parler de sa part. Donc, d'un côté, tous peuvent manifester ces dons spirituels. Hier, on a vu ce texte que je cite souvent, car vous pouvez tous prophétiser successivement. C'est pas qu'on va tous le faire, mais c'est accessible à tous. C'est accessible à tous ceux, bien sûr, qui sont nés de nouveau. Ça, si l'Esprit de Christ n'habite pas en nous, nous ne sommes pas nés de nouveau, on ne peut pas parler par le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Et encore, je mets cette parenthèse, c'est qu'il arrive des fois que Dieu puisse même parler. S'il a parlé par des ânesses, il peut parfois parler par des circonstances. Mais là, ce n'est pas une règle de doctrine. C'est pas quelque chose qu'on peut enseigner. C'est que Dieu, des fois, peut parler comme ça. Si on a du mal à, des fois, à comprendre, il peut nous parler, même par des inconvertis, parce que, poum, il ouvre la bouche de l'un, et il va nous parler. Mais vous comprenez, j'en fais pas un enseignement. Voilà. Mais nous, tous ceux qui sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, alors, nous croyons que le Seigneur baptise de l'Esprit encore. Et que la promesse est pour chacun d'entre vous. Et belles choses sont encore à vivre dans la présence du Seigneur. Et puis, d'un autre côté, comme je disais, chacun doit désirer les manifester. Peut-être connaissez-vous le témoignage de Paul à Timothée, les deux paroles que Paul va lui adresser, d'abord dans 1 Timothée, puis dans 2 Timothée. Au début, il lui dit, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Timothée avait été laissé par Paul dans une église un peu compliquée, c'était une grande église dans une grande ville, Éphèse, avec du caractère apparemment assez trempé. Et c'était pas facile pour lui, et donc peut-être, vous savez, quand on a beaucoup de soucis, parfois la vie de l'esprit, ça passe à la trappe, hein, Seigneur, on est tellement submergé. Paul dit, ne néglige pas le don. Et puis après, il reçoit des nouvelles un peu plus tard, il est en prison, Onésiphore, qui habite Éphèse, vient le visiter, et puis il lui donne certainement des nouvelles de Timothée, il lui dit maintenant, ranime le don. Ranime la flamme du don. Si, Seigneur n'éteint pas le mignon qui fume, etc. Mais je sais que dans beaucoup d'églises, beaucoup ont besoin d'entendre ce message. Ne négligez pas et ranimez. Peut-être une circonstance de la vie, une circonstance de l'église vous ont amené à vous freiner, hésiter, vous avez été blessé. Néanmoins, le Seigneur aurait tellement encore envie de vous utiliser. Et l'Église serait bénie aussi. Qu'il puisse guérir les cœurs de ceux qui sont dans cette situation. Entendez cette parole ce soir. Les dons spirituels doivent être utiles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas donnés pour créer une ambiance mystique. Et nous ne voulons pas nous laisser aller à des débordements pour chercher du sensationnel. Mais les dons spirituels doivent être utiles. C'est-à-dire qu'ils doivent atteindre un but, l'édification de l'Église. Ils ne doivent pas laisser les gens dans la perplexité ou peut-être même parfois dans l'étonnement qui frise le fait d'être choqué. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces histoires? On a vu trop de débordements comme ça. Et non, nous n'y sommes. Nous ne voulons pas ça. Nous croyons que c'est deux mots qui reviennent dans 1 Corinthiens 14, l'ordre et la bienséance. Donc le respect du Seigneur, la présence de Dieu, du Dieu Saint qui est au milieu de nous. Et je veux dire, comme on dit aujourd'hui, le principe de précaution. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir nous visiter, et s'ils nous voient faire des choses qui n'importe quoi, déjà pour eux, entendre quelqu'un parler en langue, c'est quand même assez surprenant. Mais alors si en plus ça part en tous les sens, ça va vraiment, il va falloir les apaiser, leur expliquer, et il faut, après l'interprétation, etc. Puisque j'en suis sur ça, alors ça c'est peut-être quelque chose de très personnel, vous n'êtes pas obligé de me suivre dans ça, simplement je vais vous amener à réfléchir à ça. Je veux dire, je ne suis pas favorable, comme ça c'est une opinion, c'est pas une doctrine, mais je ne suis pas très favorable. Et ça, c'est une mode qui nous vient des églises, on va dire, dites charismatiques, notamment anglo-saxonnes, qui sont liées à l'utilisation dans les dons spirituels de la première personne du singulier. Je veux dire, utilisez-le, on se laisse aller, des fois ça peut venir. Mais le « je », de parler en disant « je » à la place de Dieu. « Je suis la lumière, je suis ton Dieu qui te dit, excusez-moi ». Je préfère, ou alors Jésus est, c'est encore mieux. Je suis très prudent sur ça parce que, encore une fois, quelqu'un rentre dans l'église, on va dire, ben, cela, il a là, ça chauffe là-dedans, hein. Alors, je ne le mets pas comme une sanction, mais je vous amène à réfléchir à ça. Je pense que c'est préférable de mettre Jésus en premier, ou Dieu en premier, plutôt que de se mettre en premier. Voilà. C'est une question d'équilibre et de prudence. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification, pour bénir mon prochain, pour bénir mon frère, ma sœur, pour bénir l'Église. Maintenant, nous devons être conscients que les dons spirituels doivent être examinés. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les dons spirituels ne sont pas infaillibles. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs. Paul dit, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Quand quelqu'un prophétise ou apporte un don spirituel, c'est pas le prophète Élie qui parle. C'est pas Jérémie qui parle. Jérémie, quand il écrit, c'est infaillible, c'est une inspiration infaillible. Mais quand quelqu'un prophétise dans l'Église, il ne prophétise pas avec le même degré d'inspiration. Il n'est pas infaillible, mais il prophétise en partie. Et il nous appartient à tous d'examiner, de juger, d'analyser, non pas la personne, mais ce qui est dit. Non pas dans le but de mettre une note, de critiquer, mais j'aime bien toujours, de retenir ce qui est bon. Ça, c'est difficile quand on est français, parce que d'habitude, on retient ce qui n'est pas bon. Ça, c'est notre culture. Mais la culture du royaume de Dieu, c'est de retenir ce qui est bon. Il y a toujours quelque chose de bon. Il faut l'espérer. Mais examiner. Alors, Paul dit dans un des versets d'un Corinthiens 14, pour ce qui s'agit de la malice, de la méchanceté, etc., soyez des enfants. Mais sous le rapport du jugement, de l'examen, de l'analyse, soyez des hommes, des femmes, faits, matures. Et d'après quoi on juge? Alors je vais vous dire, si la bouche est imparfaite pour proclamer les paroles du Seigneur, mon oreille aussi est imparfaite pour examiner les paroles qui sont apportées. Alors je ne vais pas examiner d'après ce que je pense, mais je vais examiner d'après la parole. Comme les Juifs de Bérée qui examinaient ce que Paul leur enseignait jour après jour. C'est pas ma pensée, ma doctrine ou ceci qui compte, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et c'est à cela, c'est elle qui est l'étalon. Ce qui veut dire que jamais un don spirituel ne vient au-dessus des Écritures. Il découle des Écritures. Ils sont soumis aux Écritures. Et on dit que l'illumination, notre illumination, ce que nous recevons, ne peut donc ni supplanter, ni se substituer aux Écritures. Vous savez que les gens qui se laissent conduire par des illuminations, je ne dis pas qu'ils sont des illuminés, mais des pensées, s'ils ne vivent que de ça, ils prennent de très gros risques. Quelqu'un disait, la parole de Dieu, c'est marcher sur le dur, et marcher sur les révélations et les illuminations, c'est marcher sur de l'eau glacée. Voilà, on ne sait pas si ça va tenir, jusqu'où ça va tenir. Donc, voilà, ce qui est notre référence, c'est la parole de Dieu. Mais les dons spirituels sont là pour confirmer, pour encourager ce qui est par ailleurs dans les Écritures, et aussi pour nous encourager. Donc, ce qui m'amène, mais on va le voir un peu après. Voilà, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, laissez de côté le reste. Oh, il arrive à tout le monde lorsqu'il parle. De parler selon le Saint-Esprit, parfois, d'en rajouter. Oui, d'extrapoler, de délayer. Bon, voilà, c'est la nature humaine, nous sommes tous des hommes, des femmes en cours de transformation. Que Dieu nous aide. Ce que ne sont pas les dons spirituels, ils ne sont pas une garantie de perfection spirituelle. C'est pas parce que quelqu'un prophétise, parle en langue ou interprète qu'il est un super chrétien. Ce sont des dons. Maintenant, il y a une influence aussi de notre consécration, notre communion, notre sanctification sur la qualité du don qui est apporté, c'est évident. Ils ne doivent pas être confondus avec le fruit de l'esprit. Les dons, Dieu donne. Le fruit d'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit en nous, la transformation de notre caractère à l'image de celui de Jésus-Christ, Galates 5. Donc, vous connaissez cela. Ils ne sont ni des talents humains, ni des pouvoirs spirituels. Quand on prophétise, c'est pas la bonne aventure, c'est évident. Et ils ne sont pas des outils pour diriger l'Église. On ne dirige pas l'Église à coup de prophétie. C'est pas leur but. Ils sont là pour encourager, consoler, édifier, mais ils sont pas là pour dire à l'Église, voilà ce qu'il faut faire, etc. C'est pas leur fonction. Ce que sont les dons spirituels? D'un côté, ils sont des armes spirituelles soutenant l'Église dans son combat. Parole de connaissance, parole de sagesse, don de guérison, etc. C'est des armes spirituelles, les armes défensives, les armes offensives. La parole de Christ, Prédication de la parole, c'est l'épée. Tranchante et pénétrante. Partant de cette image, je dis que les dons spirituels sont un peu comme des flèches aiguës qui viennent toucher un cœur. Non pas pour le meurtrir, hein, c'est comme l'épée. Les flèches, c'est pareil. Ce ne sont pas des instruments de destruction, mais ce sont des instruments de guérison. Ce sont des armes, n'empêche, parce qu'elles viennent contre les œuvres des ténèbres, pour détruire les œuvres des ténèbres. Et l'une et l'autre sont puissantes. Seigneur, que le Seigneur nous donne de forger ces armes. Et ils sont aussi des outils d'édification, de la foi, de la vie, de l'Église, etc. Édifiés. Ils ont pour but l'édification, l'encouragement et la consolation et participent à la bonne santé de l'Église. Ça, pour moi, c'est le but des dons spirituels, c'est la bonne santé de l'Assemblée. S'encourager, s'édifier, se consoler, la bonne santé du corps de Christ. Pour ça qu'ils sont donnés à l'Église pour les membres, pour nous encourager, pour nous faire du bien. Alors, vous savez qu'on peut classer les dons spirituels en trois groupes. Dons de révélation, qui sont les paroles de sagesse. Paroles de sagesse donnent, je vais être très simple, je vais m'arrêter un peu plus sur le don de prophétie. Paroles de sagesse, c'est une communication d'une part de la sagesse de Dieu. C'est pas toute la sagesse de Dieu, hein. Mais Dieu nous donne une part de sa sagesse pour nous donner une marche à suivre, une direction à suivre, une solution dans un problème compliqué. Dieu nous montre une direction. D'accord? Parole de connaissance. Ce n'est pas toute la connaissance de Dieu, mais Dieu nous donne une part de sa connaissance sur un sujet, sur une situation, sur une personne, etc., etc. Et c'est une connaissance qui peut venir que de lui, mais que les hommes ne peuvent pas avoir. Une révélation. Le discernement des esprits, là, ça nous permet d'aller à la source d'une manifestation spirituelle, éprouver les esprits. Savons qu'il y a une sagesse charnelle, diabolique et divine. Mais parfois, il faut bien comprendre que dans certaines manifestations, il peut y avoir une part humaine, mais il y a aussi des parts diaboliques. Et parfois, c'est très subtil. Rappelez-vous la servante de Philippe, la ville de Philippe, qui va suivre Paul et Silas pendant plusieurs jours. Ces hommes vous annoncent la voie du Très-Haut. Pendant 3 jours, Paul dit rien. Et puis au bout de 3 jours, il se retourne et il va chasser l'esprit de Python, l'esprit de divination. C'est un don de discernement. Parce que Kyo, n'est-ce pas merveilleux? Elle nous fait de la pub, elle y va. Il faut vraiment là ce don pour voir que, au-delà de ce que cette femme disait, il y avait un mauvais esprit. Et on a besoin de ce don de discernement parce que parfois il y a des choses qui, dans les églises, concernant certaines personnes, certaines situations, certaines manifestations, qui nous laissent très perplexes. Et c'est là qu'on a besoin de ce don, parce que l'analyse humaine, on est mal à l'aise, parce que je crois que l'Esprit Saint est en nous, il est mal à l'aise, mais on comprend pas bien, et il nous faut parfois cette révélation. Les dons de puissance, la foi, ce n'est pas la foi qui sauve. Mais c'est la foi qui bouge les montagnes. C'est la foi qui vient de Dieu. C'est une part de la foi de Dieu. Et Dieu nous donne de croire quelque chose avec sa foi, lui, quelque part. Et quand on a cette foi-là qui nous vient de Dieu, c'est un don d'une part de la foi de Dieu, ben, on tient pour acquis la chose qu'il nous montre, que ce soit une guérison, une bénédiction, et on est inébranlable, même si on ne voit pas encore la chose. Ce n'est pas notre foi, parce qu'on se dit, mais Seigneur, moi je ne suis pas capable de ça, mais c'est un don, voilà. Le Seigneur nous a accordé ça, et on bénit Dieu chaque fois qu'il nous accorde ça, on aimerait bien qu'il nous le donne constamment, mais non, de temps en temps. C'est comme il veut, encore une fois. Les dons de guérison, là aussi, alors ce qui est intéressant, ils sont au pluriel, hein, Seigneur guérit, il confirme sa parole par des guérisons, dons de guérison, qui peuvent se manifester des fois à travers des paroles de connaissance, à travers les dons de la foi, etc., les dons de guérison. Opération des miracles, on voit deux, c'est ce qui va au-delà des miracles, c'est ce qui va au-delà des lois de nature. Par exemple, la multiplication des pains, c'est une opération de miracle. On y met aussi les résurrections, et on y met aussi les 4 délivrances. Délivrance démoniaque. Les dons d'inspiration, je viendrai à la prophétie en dernier. Les diverses langues, parler de diverses langues, et je vous rappelle que le parler en langue, il y a deux sortes de parler en langue. Croyons dans le parler en langue comme signe initial et évident du baptême du Saint-Esprit que l'on peut pratiquer dans notre culte privé abondamment, dit l'apôtre Paul. Et il y a le don spirituel de parler en diverses langues. Et celui-là, on ne peut pas le déclencher comme on veut. Il faut une impulsion de l'esprit, il faut être saisi par l'esprit à un moment donné pour manifester ce don-là. Et c'est deux choses différentes. Notre parler en langue, notre culte personnel n'a pas besoin d'être interprété. C'est une louange qui monte vers Dieu, c'est une prière qui monte vers Dieu, une supplication. Mais dans l'Église, eh bien, il aura valeur de prophétie s'il est interprété, et il doit être interprété. Parce que sinon, personne ne comprend. Mais, voilà, on est poussé par le Saint-Esprit à parler en langue, diverses langues, voilà. L'interprétation, que celui qui parle en langue prie pour interpréter, ben, il a une responsabilité, il ne peut pas simplement « Ah ben moi je prie en langue, mais je n'interprète pas ». Ben non, mon frère, ma sœur, tu sais pas que tu dois le faire, mais tu dois au moins te soucier de prier Dieu pour interpréter si tu apportes des dons en langue. Les dons en langue doivent être interprétés dans l'Église pour que le message soit clair, compréhensible et qu'il édifie les autres, parce que le parler en langue lui-même n'édifie personne, si ce n'est celui qui l'apporte, comme le disent les Écritures. Je vais pas parler sur... Vous trouverez tout ça, ce que je viens de dire, rapidement. Mais, voilà, venons rapidement sur le don de prophétie. Voilà, pour répondre en partie à ce que notre sœur me demandait tout à l'heure, mais elle a bien raison, parce que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, vous pouvez reprendre ce verset avec moi, 1 Corinthiens 14, verset 1, il dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, d'accord, mais surtout à celui de prophétie. » Le don de prophétie fait partie des dons d'inspiration, « Seigneur nous inspire », ou des dons vocaux, ils vont être manifestés dans l'Église. Et c'est vrai que la prophétie, c'est avant tout un don pour l'Église, à l'intérieur de l'Église, agissant à l'intérieur du corps de Christ pour l'édification du corps de Christ. Donc le don de prophétie doit être recherché prioritairement dans le cadre des assemblées de l'Église. 1 Corinthiens 14, 1. Alors, comment je vais dire ça? J'espère que je ne vais pas m'avancer trop vite. Au jour d'aujourd'hui, je vois une pas dire une mode, mais une tendance dans beaucoup de milieux charismatiques, pentecôtistes, qui pratiquent beaucoup de dons spirituels, à mettre en avant beaucoup la parole de connaissance. Ah, on a des paroles de connaissance, etc. C'est très bien. Très bien. Mais les dons spirituels, mais les dons de prophétie deviennent rares. Et surtout, de ces dons qui édifient. On va le voir, j'y reviens dans quelques instants. Pour moi, il y a différents degrés dans la prophétie. Il y a consoler, encourager et édifier. Eh bien, autrefois, et j'imagine que vous êtes de cette assemblée ou d'autres assemblées, il y avait vraiment des dons d'édification. Des paroles de prophétie qui édifiaient et qui apportaient un message. Je trouve une certaine pauvreté par rapport à ce niveau maintenant. Beaucoup de paroles de consolation, d'encouragement, mais des paroles qui édifient. Alors oui, on va chercher des paroles de connaissance parce qu'il y a un côté miraculeux. Waouh, paroles de connaissance, toi, ceci, toi, ça, c'est très bien. Mais l'Église a besoin de la prophétie qui console, qui encourage et qui édifie. Et pourquoi il y a moins de dons d'édification qui édifie? Ben peut-être parce qu'il y a moins de connaissance de la parole. Parce que c'est la parole qui donne le grain à moudre à la prophétie. Donc, n'hésitez pas à rechercher la prophétie, et surtout la prophétie qui édifie. Donc, la prophétie consiste en la délivrance d'un message spontané, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Il n'est pas préparé. Ce n'est pas une prédication, Maintenant, c'est peut-être quelque chose qui nous travaille depuis quelques jours, quand même. Il y a un moment, c'est venu sur notre cœur, et ça vient. Et puis à un moment, paf, ça va partir. Je dis message, mais le Seigneur peut nous parler de... Je dis comme ça, nous impulse, nous saisit, de différentes manières. Pour certains, ça va être, ils vont recevoir un mot. Peut-être le cas de certains. d'autres une phrase, un message, une idée, d'autres une image. Et je veux dire, il n'y a pas de méthode particulière, mais le Seigneur place, peut-être même à travers les Écritures, une circonstance de la vie. Bon, il y a un message, quelque chose qui vient, ça peut être pendant le culte, ça peut être un autre. Mais en tout cas, voilà, il nous faut apporter ça. C'est un message qui va être spontané. Et qui consiste à parler aux hommes. Verset 3, 1 Corinthiens 14, 3. Parler aux hommes, donc à leur cœur, donc à leur intelligence aussi, et la prophétie doit être compréhensible. Elle se différencie donc du parler en langue par sa clarté. Mot distinction. Elle se comprend. Parce que sinon, elle n'édifie pas. Elle se comprend. C'est pour ça que le parler en langue doit être interprété pour être compris. Parce que sinon, si on n'a rien compris, comme il dit, on est des barbares. Hein? Donc, il faut bien comprendre le message. L'apôtre Paul insiste vraiment sur ça. Le message, alors, concernant le contenu du message de prophétie, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la deuxième partie, édification, exhortation, consolation, je viens de le dire, 1 Corinthiens 14, 3. Mais il ne faut pas oublier, au verset 25, vous pouvez regarder dans vos Bibles, qu'il est question aussi de convaincre, de juger, dévoiler le cœur de quelqu'un. Vous vérifierez 1 Corinthiens 14, 25. Et ça je dis, ça c'est vraiment avant tout pour les croyants, l'édification, l'exhortation et la consolation. Mais quand vous regardez le passage, là où il est question de ceux qui nous visitent, je pense que la prophétie peut être aussi un message adressé à des gens qui nous visitent pour convaincre, juger, dévoiler les pensées du cœur. Mais c'est arrivé bien une fois que des gens soient interpellés par des messages de prophétie, révélant leur cœur, révélant une situation, révélant leur vie, et les amenant, les appelant à la repentance et au salut. Voilà donc les deux contenus. Toute prophétie doit être examinée, on l'a vu tout à l'heure, elles ne sont pas des messages infaillibles. La prophétie s'accomplit sous la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui distribue, qui opère, mais chacun est responsable de ce qu'il dit, car l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tant dans ce qu'on dit, que dans la manière dont on le dit. Tant dans ce qu'on dit, que dans la manière dont on le dit. Oui. La manière est tellement trouble, on n'arrive pas à comprendre. Donc, il faut faire en sorte que la manière ne vienne pas troubler le message. Et puis, ce qu'on dit aussi doit être, on est responsable dans le sens où, d'abord, pour maintenir l'ordre et la bienséance, mais de se rappeler toujours que fondamentalement, celui qui prophétise accomplit le ministère du Saint-Esprit qui est premièrement, je vous l'ai dit hier soir, d'encourager. Il est le paraclétos, l'encourageur, le consolateur, le conseiller. Donc les prophéties ne sont pas là, évidemment, on le sait tous, pour régler des comptes, pour juger les gens, pour abattre les gens. Non, elles sont là pour les accompagner, les consoler, les relever, les fortifier. Elles ne sont pas là pour jeter du trouble ou, qu'est-ce que je vais dire, accusé, etc. Et tout doit se faire dans l'ordre et la bienséance. Et dans nos assemblées, nous avons toujours été sensibles à cet ordre et cette bienséance. Je pense que c'est important parce que le domaine de l'esprit, le domaine des spirituels, le domaine du pneumatikos, c'est pas notre milieu. Dieu nous amène et nous introduit par le baptême du Saint-Esprit dans ce monde. Mais ce n'est pas notre monde. C'est un monde d'esprit. Et le Seigneur place donc des garde-fous afin qu'on ne se laisse pas embarquer dans des choses qu'on ne maîtrise pas, qui nous dépassent et qui nous emporteraient. Et donc on reste toujours, avec raison, dans les églises de Pentecôte, attachés à cet ordre et cette bienséance, cet équilibre. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix, et on a bien raison de faire attention à cela. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Là, il parle de deux ou trois qui parlent en langue. Et puis 29, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent. Donc vous voyez qu'il y a une porte qui est ouverte, finalement, à aller au-delà de trois, en tout cas trois d'une même espèce, mais peut-être il peut en avoir d'autres d'une autre espèce. D'accord ? Mais néanmoins, je pense que surtout l'esprit, c'est éviter la compétition et éviter les surenchères. Ce qui était le problème à Corinthe, où chacun prophétisait, chacun parlait en langue, l'autre n'avait même pas fini, que ça commençait, poum, poum, poum. Voilà. Je voudrais, en quelques instants, en venir au ministère de la parole. C'est important, là, j'aurai pas le temps de rentrer non plus dans tous les détails. En tout cas, on a vu les dons spirituels plus en détail, parce que ça concerne tout le peuple de l'Église. Mais les dons de la parole font partie aussi des choses qui sont importantes. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 7, Paul écrit qu'il exerçait son ministère, son apostolat, en raison d'un don spécial et puissant que Dieu lui avait accordé. Il dit « J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » Il a reçu un don. Ce don, c'est un « dorea ». Voilà, c'est le mot qu'il utilise. Il était utilisé dans le monde grec pour parler de dons provenant d'un roi ou d'un homme politique qui décernait un don à quelqu'un. Voilà. C'était donc un don d'une grande valeur. Dans les Écritures, il est employé concernant des dons en rapport avec la prédication de la parole et la gouvernance de l'Église. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des dons de la parole ou des ministères dons. Mais à chacun de nous, Éphésiens 4, 7 à 12, et à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don d'Oréa de Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà un verset très, très important. Les dons de la parole. Ces dons sont parmi les plus importants et les plus puissants dans le royaume de Dieu. Ils se manifestent par la prédication, par l'enseignement et la direction de l'Église. Ils ne dépendent ni de la volonté d'un homme, ni d'un diplôme, ni d'un mouvement, ni d'une faculté de théologie, mais de l'appel de Christ. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des hommes, des morts. Ce que nous faisons, c'est que, dans nos mouvements, avec le temps, on va reconnaître les dons. Mais d'abord, on commence par une reconnaissance au sein de l'Église locale. Parce que c'est dans l'Église locale que les dons de la parole doivent s'enraciner. Et c'est au sein de l'Église locale est comme une pépinière dans laquelle ces dons vont commencer à émerger. D'abord, ils vont être semés, ils vont grandir, et puis ensuite, en se développant, prenant de la force, eh bien, on va pouvoir finalement reconnaître ces dons à la suite de tout un parcours de formation qui est nécessaire parce que on veut être sûr des ouvriers à qui on confie des assemblées. Alors là, ils ne sont pas universels en termes de personnes considérées. Ils ne sont pas donnés à tous, mais ils sont donnés à ceux que Christ appelle et commissionne personnellement, appelés par Christ d'une manière particulière. Par contre, ils sont permanents pour ceux qui les possèdent. Et c'est la différence avec les dons spirituels, qui pour moi sont avant tout des manifestations ponctuelles. Le Seigneur nous saisit. Par contre, le don de la parole, un don d'Oréa, l'évangéliste est évangéliste en permanence, le docteur est docteur en permanence, etc., etc., pour tous les cinq dons. Ça fait partie de leur vie. C'est en eux. Voilà, j'y viens dans quelques instants. Et ces hommes sont à leur tour donnés aux églises comme un don de Dieu. C'est-à-dire que ce don les habite tellement, les transforme tellement, a tellement d'implications sur leur vie, puis tellement puissant que ils ne peuvent pas faire autrement que, voilà, ils sont donnés. C'est un don, Dieu les donne à l'Assemblée, ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Et leur champ de compétence est universel. Ils ne sont pas limités à une église locale, mais à l'église avec un grand E. Alors ça, ce soir, j'exerce le don que j'ai reçu de la part du Seigneur au milieu de vous. Demain, dans quelques jours, je serai dans une autre église, etc. Je l'exerce en tout lieu. Il est universel. Je l'exerce en Afrique, dans le continent américain. Néanmoins, je l'exerce sans m'imposer. Dans le respect des autorités de l'église locale, des pasteurs, des anciens. Il ne s'agit pas de dire « poussez-vous, j'arrive, c'est moi ». Non, on comprend bien ça. On serait mal à l'aise avec quelqu'un qui arrive et lui dit « je suis là, laissez-moi prêcher ». Parler de l'homme, il parle « aner ». Donc quand il sait ce qu'il veut dire. On verra demain, il y a des dons d'enseignement qui sont aussi pour les femmes. On va voir comment. Mais ces dons d'Oréa, comment je vois les choses. D'une manière générale, principale, ils sont confiés aux hommes masculins. À eux, la charge, cette charge-là, d'une manière générale. Maintenant, Dieu est Dieu, il est souverain. Et s'il lui prend le désir et le plaisir de susciter une femme, il peut le faire. Et il l'a fait. Et quand il le fait, c'est à la manière, pour moi, des femmes de l'Ancien Testament, à la manière d'une Myriam, à la manière d'autres femmes encore, de Déborah, entre autres. Elles vont avoir un ministère particulier. De quelque chose que les hommes n'arrivent pas à accomplir et d'une sensibilité qu'elles apportent. Et à ce sens, je dis qu'elles ne font pas le travail général, mais un très spécifique, très pointu, très particulier. Et on a vu de ces femmes, voilà, avec cette dimension-là, il y a eu des évangélistes, il y en a eu plein, et parfois même à enseigner, c'était le cas l'épouse de Smith Wigglesworth, qui lui il dit « j'étais nul à enseigner », c'était sa femme qui enseignait, voilà. Et il y a eu comme ça, de ces femmes-là. Mais par contre, je vois dans beaucoup de pays, beaucoup de femmes, voilà, ça arrive très fréquemment, mais ce qui est très rare par contre, c'est une femme qui est pasteur responsable d'une église. Là, parce que là, on n'est plus dans l'exceptionnel, on rentre dans la configuration générale, quotidienne, et c'est d'ailleurs pour faire la différence entre pasteur et enseignant. Hein, et Paul n'a jamais dit « je ne permets pas à la femme de prêcher », mais il a dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Et le mot « enseigner » là, c'est un mot très particulier qui signifie, il n'a pas écrit « je ne leur permets pas de prêcher », mais il a écrit « je ne leur permets pas d'enseigner », un enseignement d'autorité qui s'impose. Mais par contre, je vous l'ai dit, Dieu peut susciter des femmes prédicatrices qui vont être dans, et j'en connais plein, et j'ai été beaucoup de temps à New York dans l'église de Times Square, et l'épouse du pasteur, et prêche aussi, et pasteur David Wilkerson disait qu'elle était une des meilleures prédicatrices qu'il ait jamais connues. Mais par contre, elle fait tout sous la responsabilité de son mari. Ça c'est clair. Mais je mets pas en cause le fait que Dieu utilise comme ça des femmes, c'est clair. Et par contre, je ne les vois pas comme pasteur responsable d'une église. C'est pas pareil. Pas dans la gouvernance. Alors là, on a un point important. Leur mission consiste à la formation et à l'équipement des saints en vue de l'accomplissement de leur appel et leur croissance spirituelle jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Je vais vous montrer les versets. Donc vous retenez ces mots, formation, équipement, croissance spirituelle. Éphésiens 4:12, il a donné les uns comme apôtres, etc. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les Américains ont une bonne traduction que j'aime beaucoup. Traduit, c'est comme ça. Et il a donné les uns pour le perfectionnement des saints, pour le service et pour l'édification du corps de Christ. C'est comme ça que les anglo-saxons traduisent, et je trouve très bien. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Eh bien, ces trois mots, perfectionnement, accompli et propre, en grec, c'est à peu près les mêmes mots. C'est la même racine, même radical, artios, qui a donné en français artisan. Et l'artisan, c'est celui qui s'est perfectionné dans quelque chose. Parce qu'on peut être bricoleur, on peut être doué, mais un artisan, c'est quelqu'un qui a validé une formation. Donc, les ministères de la parole ne sont pas là simplement pour prêcher, pour faire des programmes de réunion, mais ils doivent travailler à quoi ? À faire des saints, à rendre les saints, à les perfectionner. Dans des Bibles, comme la Semeur ou d'autres, c'est traduit par « former et équiper ». Les former, les équiper. Pourquoi ? Pour l'œuvre du ministère, pour l'œuvre de leur service, pour qu'ils puissent accomplir leur service. Pourquoi ? Afin que l'Église soit édifiée. Parce que l'Église est édifiée par la mise en œuvre du corps de Christ. Et ça, ça doit bouleverser nos mentalités. C'est pas les pasteurs, les prédicateurs qui édifient l'Église. C'est les chrétiens qui édifient l'Église. Et la mission des prédicateurs, c'est de former et d'équiper les chrétiens pour qu'ils travaillent à l'édification de l'Église. Accompli, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Là, c'est l'idée d'un accomplissement moral, perfection morale, intérieure, d'accord ? Selon la volonté du Seigneur, et propre à toute bonne œuvre, là, c'est cette capacité d'agir. Voilà notre mission. Et d'amener les gens dans une capacité spirituelle, dans une croissance spirituelle, jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade de la maturité chrétienne. Et on doit travailler avec à ça. C'est le but que chaque prédicateur doit rechercher. Quelqu'un qui l'amène à la foi, ben le travail ne fait que commencer. Il va falloir le faire grandir pour qu'un jour il soit véritablement apte à accomplir le ministère que Dieu lui a confié pour faire avancer son Église. La liste de ces ministères est donnée dans Éphésiens 4:11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Complémentarité des ministères de la parole. Il y a deux images. Il y en a une que j'aime pas trop, c'est l'image de la main, mais elle existe, elle est très fréquente, alors on va vous permettre de très simple. Le pouce représente le ministère polyvalent de l'apôtre, ce qu'était l'apôtre Paul, ces hommes, capables de tenir des églises, les implanter, développer, etc. C'est le pouce. L'index, le prophète, celui qui montre le message, mais surtout qui montre une direction. Qui montre une direction. Le majeur, le doigt le plus long, c'est l'évangéliste, celui qui est capable d'atteindre le plus loin possible. L'annulaire, le pasteur, celui dans cette alliance. Hein. Et on dit que l'auriculaire, c'est celui qui débouche les oreilles, l'enseignant. Mais une image que j'aime encore plus, et je trouve elle est, pour moi, elle est plus forte, c'est l'image des ouvriers travaillant à la construction du bâtiment, d'autant plus qu'elle est biblique. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Sur la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Les apôtres posent les fondations doctrinales et organisationnelles de l'Église, ils initient la vision. Les prophètes opèrent aux côtés des apôtres et développent la vision de l'Église. Ils prêchent, ils encouragent, ils fortifient l'Assemblée. Les évangélistes vont dans le monde extraire les pierres vivantes de la carrière du monde et les amènent vers l'Église. Les pasteurs veillent sur les pierres et ils les placent à l'endroit où Dieu les veut. Et les enseignants sont là pour édifier, pour construire, pour consolider toute l'Église. Ça arrive. Ça arrive. Dieu est libre. Hein. Ils se répartissent en deux classes. Les ministères de fondation, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire, celle qui donne l'axe de construction. Les apôtres et les prophètes sont les pierres de fondation. Pourquoi ? Parce que c'est Pierre le premier qui a confessé tuer le Christ. Et Jésus a dit, tu es Pierre, en paix. Et sur cette pierre, quoi ? Ta confession de foi, je bâtirai mon Église. Donc les apôtres et les prophètes sont les ministères de fondation. Ils établissent les fondations. Alors ça, c'est un grand bouleversement, parce qu'aujourd'hui, on pense que les apôtres sont ceux qui sont tout en haut. Dans certains pays, c'est ça. Or, les apôtres sont ceux qui sont tout en bas. Et quelqu'un qui est vraiment un apôtre, qui est un ministère extraordinaire en Amérique du Sud, me dit, le ministère des apôtres, c'est de faire briller les autres. Parce que le ministère apôtre, fondation, est-ce qu'on voit des fondations ? Si on voit les fondations de votre maison, il y a un problème, n'est-ce pas ? Généralement, les fondations, on ne les voit pas. Mais les autres bâtissent dessus. Voilà. Et puis, il y a les ministères d'édification. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un architecte, un autre bâti dessus. Les ministères d'édification sont les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Dans 1 Corinthiens 12:28, Paul dit « Et Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres, premièrement des apôtres, secondement des prophètes et troisièmement des docteurs. » Donc, premièrement et secondement, apôtres et prophètes, les ministères de fondation. Et le premier des ministères d'édification, c'est le docteur qui est là pour bâtir. Mais dans Éphésiens 4:11, c'est l'évangéliste. Ça nous rappelle que cet équilibre, le docteur construit à l'intérieur de l'Église et l'évangéliste lui amène les pierres aussi pour la construction. Oui, c'est l'enseignant. Maestro en italien. Là, je n'ai pas le temps de rentrer ce soir dans tous ces, dans les détails. Si vous les trouverez sur le livret, si vous souhaitez, sur les apôtres, les différents types d'apôtres. Il y a eu les 12. Il y a eu les apôtres, qu'on appelle les apôtres du Christ ressuscité, ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est Paul. Barnabas aussi, Jacques, le frère de Jésus. Il y a eu d'autres apôtres dans le Nouveau Testament. Alors, le ministère des apôtres, premièrement, c'était chercher à atteindre des populations non atteintes par l'Évangile. Voilà. Parmi les apôtres aujourd'hui, je pense que dans les temps passés, nous avons connu des apôtres qui ont vraiment été des apôtres, qui n'ont jamais recherché le titre d'apôtre, mais on pourra penser à M. Lekossek. Certainement, je pense qu'il y a cette unanimité dans les églises pour reconnaître le ministère apostolique du frère Lekossek. Je pense qu'on peut reconnaître aussi le ministère apostolique du frère Cizeron à l'île de la Réunion, et puis d'autres missionnaires comme M. Dupré ou d'autres, Scott, qui a eu un grand travail aussi, bien sûr, dans notre pays de France. Voilà. Les apôtres implantaient de nouvelles églises. Et ça, c'est quelque chose, c'est un trait. Hein. Les apôtres implantent des églises nouvelles. Ils structurent les églises. Acte 14. Ils ne les laissent pas en friche. Hein. Ils vont placer des anciens, des diacres. Il menait des équipes ministérielles. Il levait des jeunes gens qu'il prenait, Paul le dit. Hein. Il aimait trouver des jeunes gens, Timothée, Tite, et il les prenait avec lui pour les amener dans le ministère. Ils exerçaient aussi un ministère de couverture des églises, et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Mais vraiment un ministère très compliqué. Ouf. Voilà. Que quelqu'un vienne à tomber, je brûle, etc. Les prophètes, ça c'est plus compliqué parce que là encore, c'est des ministères qu'on connaît moins aujourd'hui, les apôtres et les prophètes. Ils exercent un ministère de prédication par inspiration et par révélation. Ah, ils parlent comme ça. Et parfois de prédiction, comme Agabus. Ouais, comme Agabus. Les évangélistes. Philippe est un évangéliste merveilleux, acte 8. Surtout, ce que j'aime avec Philippe, c'est qu'il est capable de prêcher aux foules à Samarie, mais il est capable ensuite d'aller où ? Seigneur, sur le chemin, lequel ? Désert. Ah, c'est sûr que là, des foules, il allait en rencontrer, hein ? Non, il n'y avait qu'un homme. Évangéliste des foules, évangéliste d'un homme. Ça, c'est vraiment l'évangéliste. Prêcher Christ, il prêcha Christ. Et les signes et les prodiges accompagnèrent le ministère de Philippe. Mais après, une fois que le troupeau a été rassemblé, les apôtres sont venus, puis lui est parti. Il est parti plus loin, il a continué son ministère. Et puis ensuite, il s'est même retrouvé à Césarée. Il est resté pendant des années et des années, peut-être exerce-t-il un ministère d'évangéliste dans la région, puisque plus tard, dans acte 20, il est appelé Philippe l'évangéliste. Donc, il y a des évangélistes qui sont dans l'église, et puis des évangélistes hors de l'église, il y a des évangélistes qui sont dans l'église, et des ministères d'évangélistes dans les églises, et qui un évangéliste va évangéliser, et puis il va aussi impulser une dynamique dans l'évangélisation. Et il va pousser l'église dans l'évangélisation. Les pasteurs. Alors, avant tout, les pasteurs sont des modèles. Et le pasteur ne peut pas être itinérant. Le pasteur est un ministère de proximité. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent, dit Jésus. Il est un portier, je suis la porte. Vous qui habitez, vous êtes au pays du Jonneau, hein, les bergers, vous connaissez. Et le pasteur était celui, le berger, qui faisait office de porte, puisque les bergeries étaient des enclos de pierre, et le berger dormait en travers de la porte, et nul ne pouvait entrer que par lui, en passant par lui. Il fait sortir et entrer le troupeau. Et comme il y avait plusieurs troupeaux dans la bergerie, en enclos, il sifflait, il appelait, et quand les brebis entendaient la voix de leur berger, elles sortaient. Et les autres restaient parce que c'était pas leur berger. Et puis il est question aussi de leadership. Il les conduit dehors et il marche devant elles. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. C'est lui qui les conduit. Hein, il doit savoir où il les amène. Il nourrit et garde le troupeau. Dans 21.15, entre Jésus, le dialogue entre Jésus et Pierre, même tu, Pierre. Jésus dit une fois, il va utiliser les deux verbes qui sont ici, bosco et poimano. Il dit, paie mes brebis. Et nous, on a aussi paie mes brebis. Sauf que, il y a deux verbes qui sont différents. Poimeno, qui veut dire surveiller, surveille mes brebis, prends soin de mes brebis. Et bosco, ça vient de là, qui fait référence à l'idée de nourrir. Nourrir. Assurer le bien-être spirituel des membres de l'Église. Donc c'est la double mission des pasteurs. Ils surveillent et ils nourrissent. Et puis les docteurs, qui clarifie la parole afin d'édifier le corps de Christ. Il est le premier des ministères d'édification. Et ce qu'on espère généralement, c'est que les docteurs sont là pour arroser la parole et non pas pour arroser, hein, mais non pas pour endormir, puisque Paul dit « j'ai semé » et puis Apollos a arrosé. Apollos était un docteur pour construire, pour arroser, pour fumer. Celui qui fait croître, dans tous les cas, c'est Dieu. Voilà pour ces ministères de la parole. Simplement, je finis avec ça. Les dons spirituels, demain on parlera de dons d'intendance, émanent de l'intérieur du corps. Donc les dons spirituels viennent de l'intérieur du corps. Les dons spirituels assurent la bonne santé spirituelle et morale de l'Église et des frères et sœurs. Tandis que les dons de la parole agissent dans les églises locales, mais ils ne sont pas donnés à une église locale. Ils forment les disciples et conduisent les églises. Voilà.